Vous écoutez RTL.
RTL, il est 9h01.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Yves Calvi jusqu'à 9h30.
Grand bonjour à vous Bernard Minier.
Bonjour.
J'ai envie de vous poser cette première question. Rien à déclarer, j'imagine que vous saisissez le clin d'œil. Officiellement, vous êtes toujours, mais je le précise à nos auditeurs, vous êtes toujours contrôleur principal des douanes françaises, mais désormais en disponibilité pour vous consacrer entièrement à l'écriture en moins de 6 ans. Et depuis la parution de votre premier polar, Glacé, hein, votre vie a littéralement basculé. Vous êtes aujourd'hui l'un des auteurs français les plus lus et l'un des maîtres incontestés du suspense. Votre 5e roman, Nuit, paraît donc aujourd'hui même chez Ixo. Alors le matin, en vous levant, qu'est-ce que vous vous dites, Bernard Minier, j'ai une chance inouïe, c'est tout simplement mérité, ou c'est peut-être un malentendu?
Un peu des deux, en fait.
Un peu des trois.
Non, oui, c'est vrai. Oui, évidemment, la chance inouïe, ça... Enfin, en même temps, je ne me lève pas tous les matins en y pensant, parce que sinon, ça deviendrait un peu répétitif, mais c'est quand même quelque chose d'assez inespéré, surtout quand c'est une aventure qui a démarré à 50 ans. Oui. Donc, en fait, je pourrais aussi figurer dans une émission du genre « La vie redémarre à 50 ans », c'est un bon sujet.
Mais c'est plaisant.
Et oui, c'est vraiment quelque chose que faire quelque chose qu'on aime et avoir autant de lecteurs et autant de succès si tard que ça, c'est quelque chose. Je me pince tous les matins. Ouais.
Mais vous avez aujourd'hui la vie dont vous rêviez?
Un peu, ouais, parce que j'ai toujours rêvé d'être écrivain depuis très 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 longtemps. J'ai toujours lu, toujours écrit, même si j'ai proposé ça assez tard aux maisons d'édition. Et c'est un peu la vie rêvée. Mais c'est aussi une vie tout à fait normale, je veux dire. C'est pas quelque chose sur lequel je me penche tout le temps quand j'écris. Quand j'écris, je pense absolument pas à ce genre de choses. Et ni aux lecteurs, ni aux critiques, ni à la presse, ni... Je ne me laisse pas influencer par ça.
Vous êtes pris tout simplement par votre histoire. Alors en compagnie de Bernard Lehu, nous allons prendre le temps de parler de votre nouveau polar, de votre travail d'écriture et pourquoi pas un peu de vous-même. Avec nous également ce matin Isabelle Morini-Bosse qui nous donnera les audiences télévisées d'hier soir et qui je pense a envie de savoir s'il y aura une suite à l'adaptation de Glacé hein, diffusée sur M6 le mois dernier. Enfin Charlotte Arrigoni nous livrera les express du jour. Bernard Lehu, on ne va pas ici dévoiler évidemment l'intrigue de Nuit, le 5e roman de Bernard Minier. Que nous ferons gagner dédicacé tout à l'heure, mais dites-nous au moins, on va dire, comment ça démarre?
Eh bien, par une scène d'anthologie, je dois le dire, une descente de la police norvégienne sur une plateforme pétrolière en mer du Nord et en pleine tempête. On retrouve toujours hein, cette faculté remarquable chez vous de décrire des atmosphères puissantes, de planter des décors hors normes. Les policiers sont à la recherche de l'assassin d'une jeune technicienne de la base, mais l'homme a déjà pris la fuite en laissant derrière lui les photos d'un enfant et surtout de Martin Servaz.
Alors ça me dit quelque chose. Le commandant de police judiciaire à Toulouse, si je me souviens bien.
Voilà, le héros de Glacé. Absolument. Et on découvre vite, c'est donc ce livre, hein, il faut le dire d'emblée, c'est le retour de Servaz et on découvre vite que l'assassin en cavale n'est autre lui que Julian Hirtman, l'abominable tueur en série, le monstre psychopathe qu'affrontait Servaz dans votre premier roman. Et voilà, le lecteur embarqué dans un nouveau et terrifiant duel entre les deux hommes. Je m'arrête là. Je précise tout de suite hein, qu'on peut lire Nuit sans avoir lu ou vu Glacé. Alors Bernard Minier, vous n'en aviez donc pas fini avec ces deux personnages, Hirtman et Servaz?
Ah, en fait, je n'ai jamais fini avec Hirtman et Servaz. C'est vrai que je les avais abandonnés pendant un certain temps, quand même, puisque j'ai entre-temps écrit une putain d'histoire où ils n'étaient pas présents. Et j'ai des États-Unis, oui. Et ensuite, j'ai laissé passer 2 ans. Donc, ça fait quand même 3 ans qu'on avait laissé Martin Servaz avec N'éteint pas la lumière. Je sais que beaucoup de lecteurs m'ont réclamé son retour et c'est pas pour ça que j'ai écrit ce livre-là, c'est parce qu'évidemment il a encore plein de choses à dire et puis c'est un personnage que je me suis attaché. Moi j'ai toujours l'impression qu'il fait partie de la famille, que c'est un cousin, un ami. Alors il y a des moments où il m'insupporte, hein. C'est pour ça que je l'ai laissé en congé pendant 3 ans, c'est parce que de temps en temps j'en ai un peu...
Qu'est-ce qui vous insupporte chez lui?
Bah, il a des travers que j'ai aussi, donc finalement quand je le... Déjà la difficulté avec les nouvelles technologies, on parlait de Twitter tout à l'heure, voilà. Il a un côté aussi, par rapport au monde moderne, voilà, un peu de mal à se situer. Maintenant, je ne suis pas comme Flaubert qui disait Madame Bovary, c'est moi, je ne suis pas Martin Servaz. Mais néanmoins, voilà, de temps en temps, j'ai l'impression de me voir un peu dans un miroir quand je parle de lui. Donc voilà, j'avais envie de le mettre en congé, j'avais envie d'essayer d'autres choses. Et puis, le besoin, l'envie, le désir de le retrouver est revenu. Mais évidemment, je voulais que ce retour soit marquant, soit frappant. Les lecteurs l'attendaient beaucoup, donc j'ai fait de mon mieux.
Alors on est rassuré de savoir que vous n'êtes pas Servaz, parce que alors là vraiment vous ne le ménagez jamais hein, dans ces enquêtes. Ici encore, vous n'y allez pas de main morte, on ne va pas tout détailler, mais il va subir une grave blessure, une lourde opération, sa fille est menacée, l'IGPN, la police des polices, est assez basque. Mais pourquoi malmener ainsi votre enquêteur? Qu'est-ce qu'il vous a fait?
C'est un peu mon punching ball, mais Servaz. J'aime bien le torturer, le malmener, le tracasser. Je ne sais pas, déjà c'est à travers les épreuves que les gens se révèlent, que les masques tombent finalement, qu'on voit de quel bois les gens sont faits, donc à travers le danger. Je parle toujours de la même scène, si on était là en train de... Alors je ne vous le souhaite pas, mais si on est là tranquillement en train de discuter, si tout d'un coup quelqu'un faisait irruption avec une mitraillette, on verrait en fait ce qui se casse derrière les masques. Le vernis de civilisation tomberait et chacun réagirait à sa façon. Il y a celui qui se planquerait sous la table, celui qui essaie de protéger les autres, ainsi de suite. C'est toujours intéressant de confronter les personnages à des épreuves assez épouvantables, il faut bien le dire, et de voir comment ils réagissent, parce que chacun réagit différemment. Et puis moi, ce qui m'intéresse le plus, ce sont vraiment les personnages. J'essaie de leur donner un poids d'humanité, de les faire réagir d'une manière aussi crédible et vraisemblable que possible. C'est moins les intrigues qui m'intéressent que la façon dont les personnages réagissent à ce que je leur propose.
Et interagissent entre eux, parce qu'il n'y a pas de grand flic littéraire sans un grand criminel, et vous avez doté votre tueur en série, Julian Hirtman, d'une personnalité intéressante. C'est un ancien magistrat, il est intelligent, il est cultivé, ce bonhomme.
Oui, il a aussi un point commun avec son alter ego Martin, c'est à savoir qu'ils sont très l'un et l'autre fans de Mahler, de musique classique, etc. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont deux personnages qui ont un peu de mal à se situer par rapport au monde moderne, les deux, finalement. Et ça me permet de dire beaucoup de choses sur la société contemporaine, d'avoir des personnages comme ça. Parce qu'avec ce recul qu'ils ont par rapport à elle, je peux en parler, justement, moi aussi, avec un certain recul, en me mettant un peu à part. Donc ça, c'est très intéressant de parler de la société de cette façon-là. Et le personnage de Hirtman, oui, il a ce côté cultivé, il a ce côté un peu, voilà...
Vous allez nous expliquer cette illustration musicale,
vous
Bernard.
Vous entendez cette musique, Bernard Minier. Vous la reconnaissez, c'est évidemment du Mahler, et notamment la 4e symphonie. Et la première fois que l'assassin et l'enquêteur Servaz sont confrontés, voilà, ils découvrent qu'ils ont en point commun l'amour de Mahler et en particulier de cette symphonie.
Ça c'était glacé, oui, effectivement.
Mais alors, est-ce que c'est une passion aussi, vous, personnelle, pour Mahler? Pourquoi vous avez choisi ce compositeur?
Excellente question. En réalité, je ne connaissais pas grand-chose à Mahler quand j'ai écrit Glacé.
Ah oui, c'est bien.
En revanche, j'ai découvert sur Internet et dans des forums et des gens qui étaient de grands spécialistes et c'est devenu petit à petit une passion, même si les symphonies de Mahler sont tellement longues que je n'écoute jamais une en entier. Je m'endormis
pourtant
au milieu.
Elles sont belles. Hein.
Elles sont magnifiques, mais voilà, il faut les écouter par... J'aime toujours découvrir des domaines que je ne maîtrise pas forcément, parce que ça me permet d'apprendre des choses en même temps que je les apprends au lecteur. Mahler, c'était un choix, parce qu'en fait, Mahler, c'est un peu une passerelle entre le monde ancien et le monde nouveau, entre la musique du 19e siècle et celle du 20e, et aujourd'hui du 21e, et ça dit aussi des choses de mes personnages, cette passion pour Mahler, qui sont eux-mêmes, comme je viens de le dire, entre deux époques.
Oui. Alors, on l'a dit tout à l'heure, votre tueur en série a laissé derrière lui de mystérieuses photos d'un enfant, un petit garçon, Gustave, tiens, le même prénom que Mahler, et il va prendre une place capitale dans le déroulement de votre intrigue. Ça vous permet d'aborder le thème de la paternité, notamment, vous écrivez, avoir un enfant, c'est réapprendre que nous sommes fragiles, un enfant vous rend vulnérable.
C'est tellement vrai.
Oui, bien sûr. Et je pense que le thème de la paternité, pour un homme, comme évidemment la maternité, est un des thèmes les plus formes qui soient. C'est quelque chose qui vous remet en question, c'est quelque chose qui, en effet, met en question votre place dans le monde, parce que vous n'êtes plus seul, parce que quelqu'un dépend de vous. Donc vous êtes obligé de faire d'abstraction de plein de choses et de tenir compte de... Et là, dans la situation où se trouve cet enfant, et on va pas spoiler, mais voilà, il est quand même un grand danger lui aussi. Ça oblige Servaz et ça oblige Hirtman à...
Mais alors, est-ce qu'un enfant peut rendre humain le pire des tueurs?
Ça, c'est une question à laquelle je ne répondrai pas. Parce que sinon, on s'avancerait un peu trop dans le livre, mais il faut le lire pour avoir la réponse.
Il faut savoir que cette question est au cœur du livre.
Vous l'avez flanqué d'une inspectrice norvégienne, votre héros. Kristen, c'est pour mieux séduire vos futures lectrices?
Non, pas forcément. C'est parce que je suis moi-même un grand fan de littérature scandinave et j'y avais longtemps que j'avais envie de faire un petit clin d'œil à cette littérature-là.
Ah oui, un hommage.
Je me rappelle que une des premières fois que j'étais chroniqué à Télématin, Olivier de Lambertier avait parlé de polar polaire, il y avait Mankell et moi ce jour-là. Donc depuis, j'ai un peu cette étiquette de le plus scandinave des auteurs français, en quelque sorte. Et j'ai voulu faire un petit clin d'œil à ça et puis je suis parti évidemment là-bas, en Norvège. J'ai pris ce fameux train de nuit Oslo Bergen qui est la scène d'ouverture du livre.
Oui,
j'ai
que vous racontez aussi au début du livre.
C'était assez marrant parce que je suis aussi un fan de Johannesburg, de retrouver des lieux que je connais bien. Alors, par la littérature.
Avant de marquer une pause, nous allons faire gagner Nuit, dédicacée par vous Bernard Minier, et publiée chez Ixo, je le rappelle. Pour cela, il faudra répondre à la question que pose immédiatement Bernard.
Eh oui, Nuit, le polar qui vous empêchera de dormir, évidemment. Alors, quel est le nom du commandant de police déjà présent dans Glacé, votre premier polar, Bernard Minier?
Réponse au 32-10, et dans un instant, la suite de Laissez-vous tenter, avec notre invité exceptionnel aujourd'hui, Bernard Minier.
RTL Matin, Laissez-vous tenter, avec Yves Calvi.
9h12, très bonne journée à vous tous qui nous écoutez. Nous sommes en compagnie de Bernard Minier à l'occasion de la sortie aujourd'hui de son cinquième polar, Nuit, c'est le titre. Je le disais au début de cette émission, le succès est venu très vite pour vous et sur le tard, à 50 ans passés, mais l'envie d'écrire vous taraudait depuis longtemps, évidemment.
Oui. Dès que j'ai été en âge d'écrire, je l'ai fait. En réalité, dès que j'ai commencé à lire, j'ai eu envie d'écrire.
Mais je crois qu'il y a même un événement, fondateur, non? Une certaine lecture de Robinson Crusoe.
Ça, c'est très ancien. Oui, ça remonte. Ça ne rajeunit pas. oui, c'était en fin de CE2 ou début de CM1, je sais plus. En fin d'année scolaire, au mois de juin, une maîtresse remplaçante qui avait fait une lecture à voix haute de Robinson Crusoe. Et je crois que c'est ce jour-là où vraiment la fascination du mot écrit est née, et autant l'envie de lire, je lisais déjà un petit peu, mais vraiment, mais aussi l'envie d'écrire. Tout de suite, j'ai eu envie de raconter des histoires comme celle, parce que j'avais l'impression que cette maîtresse remplaçante, en réalité, c'était elle qui avait écrit l'histoire, qui avait écrit Robinson Crusoe, non seulement qu'il lisait, mais donc je mélangeais tout ça.
Ce sont vos premiers émois de lecteur, là.
Littéraire, oui, entendons-nous. Oui.
Lu par une maîtresse.
Absolument. Oui, je vais à quel pente vous voulez m'entraîner. Oui.
Alors, ce n'est pas du tout le genre d'Yves, non.
Bonjour. Mais alors, après Robinson, quels justement les premiers grands bonheurs de lecture, les auteurs qui vous ont impressionné dès
l'adolescence? Impressionné, je ne sais pas, mais moi, une des premières lectures, parce que c'était Bob Moran, qui est devenu une chanson célèbre aussi depuis. J'avais quoi, une dizaine d'années, et tout le monde avait des Bob Moran dans ses placards. Par chez nous. Ouais. Donc j'en lisais beaucoup et ça a été parmi les premières choses que j'ai commencé à écrire. En fait, je m'appropriais les personnages des autres et je les faisais miens et je racontais mes petites histoires avec Bill Ballantyne, avec Beaumont. Après, assez peu de temps après, j'ai lu Jules Verne, j'ai lu Lovecraft, j'ai lu Jean Rey, j'ai lu des gens comme ça. Beaucoup de fantastique au départ. Ouais. Et puis.
Tous les grands noms du roman noir américain. Oui, notamment.
Alors ça, c'est venu. Ouais. Curieusement, le policier est venu très tard. Ouais. À 20 ans, moi, j'étais plutôt Thomas Bernhard, Gombrowicz, Nabokov.
Ah oui, c'est pointu.
Je lisais quasiment pas de polar. J'ai commencé à lire du polar quand j'avais une trentaine d'années et pas avant. Donc
Alors, vous savez, il y a un débat permanent sur l'avenir de la lecture. Est-ce que vous êtes optimiste ou pessimiste?
Très optimiste. Oui, je pense que...
Pourquoi?
Parce que déjà, on va, sans prononcer de mots barbares, en tant que produit culturel, entre guillemets, le livre est quand même celui qui résiste le mieux aujourd'hui. Et puis, je m'aperçois que les gens continuent à lire. Au contraire, Internet amène de nouveaux lecteurs, peut-être. Toutes ces nouvelles technologies amènent de nouveaux lecteurs. Non, moi, je suis très, très optimiste. Je vois les jeunes lisent. Il y a encore, même si je ne sais pas où les ventes de livres baissent un petit peu, mais ça risque quand même d'être très bien. Et je pense que tôt ou tard, je vois ce qui s'est passé en Angleterre il y a 2 ans ou 3 ans, j'en parlais avec des libraires là-bas à Londres, où tout d'un coup on a vu un retour vers la lecture et de nouveau les ventes de livres ont augmenté. Je pense que le livre, la lecture, c'est quelque chose d'irremplaçable et totalement séparé du reste.
La notion du polar amène une question, c'est est-ce que vous connaissez toujours la fin de vos romans?
Ah,
quand là, vous commencez,
bien sûr.
Pas toujours. Très souvent, oui.
C'est bien de le reconnaître, ça.
Ben là, par exemple, pour Nuit, vous aviez la fin.
Oui, pour Nuit, je connaissais la fin.
Vous aviez la chute.
J'avais le début, j'avais la fin, j'avais le milieu, j'avais des points de repère, oui. Mais ça m'est arrivé sur certains romans de changer en cours de route ou d'être... il faut que je me surprenne un peu moi-même, parce que sinon, c'est difficile. Les lecteurs de Polar sont quand même des lecteurs de plus en plus pointus. Hein. On la leur fait pas, quoi. Ils connaissent un peu les petits trucs et les ficelles du genre, donc il faut... c'est de plus en plus difficile de les surprendre. C'est quand même aussi un peu un des principes de base. Hein. Le polar, c'est comme le patinage artistique. Il y a les figures imposées, l'une d'elles, c'est le twist final. Ouais. Donc, c'est de plus en plus difficile de les surprendre. Il faut aussi un peu surprendre soi-même si on veut, à un moment donné, arriver à ce que ça fonctionne.
Alors, vos lecteurs, vous les voyez très régulièrement, vous les rencontrez en librairie, dans les salons. Est-ce que vous tenez compte vous venez de dire que c'était des lecteurs exigeants, est-ce que vous tenez compte des remarques qu'ils vous font?
Oui, non. C'est-à-dire que ça m'intéresse toujours. Moi, je suis très, très surpris. Par exemple, Martin Servaz, mon personnage fétiche, mes lecteurs le connaissent sinon aussi bien que moi, parfois même, j'ai l'impression quand je discute avec eux, de discuter d'une personne et chacun en connaît une facette. Et certaines fois, j'ai des choses que moi-même j'ai oubliées. Donc oui, je tiens compte, non pas de ce qu'ils me disent, parce que je suis totalement indépendant dans ce que j'écris et je ne veux surtout pas me laisser influencer par qui que ce soit, ni par quoi que ce soit, mais en revanche, ça m'intéresse toujours de leur perception. Parce que finalement, chaque lecteur a son propre livre en tête. Chacun s'approprie la lecture et en fait quelque chose de nouveau. Chacun a son univers, chacun a sa vision du personnage. C'est d'ailleurs, avec la série télé, c'est un peu le danger, c'est que physiquement, le personnage se fiche, se réifie, et qu'on ait du mal à aller au-delà de ça, en tout cas pour les nouveaux lecteurs.
Alors, on continue de parler de votre travail, là, on entre dans la cuisine de l'écrivain, en quelque sorte, dans l'arrière-salle. Est-ce que vous avez des manies, des rituels, voire des superstitions quand vous écrivez ?
J'irai pas jusqu'à dire rituel. Superstition, certainement pas. Rituel non plus. Discipline, oui. Il faut dire que, comme on vient de le dire, je suis devenu écrire à temps plein à 50 ans. Donc, j'ai passé quelques années auparavant dans l'administration. Ça m'a donné quand même une certaine ossature, une certaine habitude. J'ai des horaires assez fixes. Ouais. C'est-à-dire que je me lève le matin, j'ai 30 secondes de temps de transport jusqu'à ma cafetière, ensuite 30 secondes jusqu'à mon bureau, je me mets devant mon ordinateur, à 7h30 du matin, je commence.
Ah oui, donc là, on vous empêche d'écrire ce matin.
Absolument, oui, et c'est vrai.
Pardon.
Mais je suis très heureux d'être ici.
On va pas s'excuser, non ?
Je suis très heureux d'être ici, je vous rassure. Et puis j'arrête en milieu d'après-midi, voilà, j'ai des horaires assez. En revanche, c'est 7 jours sur 7, c'est la grande différence avec le temps où j'étais dans l'administration.
Qu'est-ce qui se passe quand ça vient pas à 7h32 ?
Parce que, curieusement, ça vient toujours d'une manière ou d'une autre. Parce que je me rappelle, Hemingway disait qu'il faut toujours laisser un peu d'eau au fond du puits. Et c'est ce que je fais la veille. Je reprends ce que j'ai écrit la veille et ça relance la machine. Le syndrome de la planche blanche, je connais assez peu d'auteurs finalement qui l'ont. À partir du moment où on a.
Vous parliez de l'administration qui vous a employé, donc les douanes. Que pensent de vos livres et de votre succès vos anciens, enfin vos collègues toujours, puisque vous n'êtes qu'en disponibilité?
Ah bah je pense qu'ils sont très contents. Ouais. Je pense qu'ils sont très heureux. Je dois aller dans quelques temps au musée de la douane à Bordeaux, qui est une institution chez nous, pour faire une inauguration. Donc je pense que oui, il y a une certaine forme de reconnaissance. Après, c'est deux métiers complètement différents et je ne nourris pas de ce que j'ai vécu dans les douanes. Je m'intéresse à autre chose. La police, le SRPJ de Toulouse, que je connais bien aussi, où j'ai quelques entrées. Voilà, c'est un monde, c'est une page que j'ai tournée, mais néanmoins je garde des contacts.
Bernard Minier, on va marquer une nouvelle pause dans cette émission avant de retrouver les Express de Charlotte Arrigoni et les audiences télévisées avec Isabelle Morini-Bosque. Je rappelle que votre dernier polar, Nuit, paraît aux éditions XO et on est ravis de vous accueillir aujourd'hui pour en parler.
RTL Matin, laissez-vous tenter avec Yves Calvi.
9h20, Bernard Minier est notre invité ce matin à l'occasion de la parution de son dernier polar, Nuit, aux éditions XO. Alors, je ne sais pas si vous avez regardé la télévision hier soir, je vous pose la question.
Non.
Bien. Alors, premier bide, mais on va quand même... D'autres l'ont fait, et maintenant Isabelle, avec Médiamétrie, va nous dire qui a gagné la partie hier soir.
C'est pas grave, je fais comme si ça vous avait passionné. Eh bien, c'est Grey's Anatomy qui reprend la main, avec 4 700 000 personnes sur la une, 18% du public. C'est à peu près 700 000 de plus que Fais pas ci, fais pas ça, qui termine dans une bonne, honnête moyenne, près de 4 millions de téléspectateurs, donc, et 15% du public sur la 2. Et en troisième position, Inoxydable, Top Chef, 2 800 000. Et alors, côté TNT, je suis très contente, parce que si Columbo est en tête sur TMC, et j'en suis très heureuse, avec 1 220 000 téléspectateurs...
C'est quand même extraordinaire, et
bien,
parce que
c'est extraordinaire.
Tous les épisodes au moins 5 fois dans
mais
notre vie.
C'est mieux que ça. C'est-à-dire qu'ils ont déprogrammé Person of Interest qui était diffusé pour le remplacer par Columbo. Et ça marche nettement mieux. Ça fait à peu près 600 000 de plus. C'est quand même intéressant. Et alors, achetant des têtes de bois, la tournée d'Isole, je suis ravie parce que C8 en espérait au moins 800 000 téléspectateurs. Eh bien, il y en a 1 120 000. Et ça aussi, ça veut dire quelque chose. Voilà. Et alors, côté audience, il faut tout de même souligner celle de Glacé, diffusée en début d'année sur M6. Elles ont été bonnes après un démarrage spectaculaire suivi d'un tout petit tassement logique. Mais ce qui est surtout remarquable, c'est que Glacé est à ce jour le programme le plus regardé en télé de rattrapage sur M6. Derrière la série Quantico, il y a eu globalement près de 800 000 téléspectateurs de plus chaque semaine. C'est remarquable. Mais au fait, quand je vous ai vu à l'époque, vous n'excluiez pas une suite, en tout cas une autre production avec M6, que ce soit la suite de Glacé ou autre chose. T'avais oublié ?
Alors, non, pas du tout. Alors, il y a deux choses. La suite de Glacé, ça dépend évidemment d'M6. Et je n'ai pas d'informations nouvelles à ce sujet. En revanche, oui, j'envisageais l'écriture d'une série qui n'a strictement rien à voir avec mes livres, et qui est en cours d'ailleurs. Voilà, mais j'en dirai pas plus parce que pour l'instant ça serait un peu prématuré. Ça serait plutôt une série dramatique en forme de thriller qu'un thriller pur et dur.
Vous avez déjà le diffuseur ?
J'ai déjà le producteur.
Ah, ça pourrait être sur M6 alors ?
Ça pourrait être sur M6.
Mais visiblement pas uniquement.
Pas uniquement.
Ouais, c'est ce que j'ai cru comprendre.
Et avec Servaz ou non, vous créez d'autres personnages ?
Non, c'est inédit. Je suis un peu comme les personnages de la campagne politique aujourd'hui. On cherche des alliances.
Allez, on va passer à nos express. Bonjour Charlotte.
Bonjour Yves et bonjour à tous.
Bonjour Charlotte.
Bonjour Charlotte.
Après les Grammy aux États-Unis, c'est au tour des Brit Awards, les victoires de la musique britannique, de rendre un hommage posthume à David Bowie.
Un an après son décès, le Britannique s'est vu décerner hier soir deux récompenses, celle de meilleur artiste, celle de meilleur album pour Black Star. Raté en revanche pour la Française Christine and the Queens, puisque c'est Beyoncé qui a été sacrée meilleur artiste international.
David Bowie a donc été l'homme de la soirée à Londres, Londres qui n'exclut pas d'installer une statue en son hommage.
Oui, un éclair en acier d'environ 9 mètres de haut pourrait être érigé à Brixton, son quartier natal, éclair à l'image de celui dessiné sur le visage du chanteur sur la pochette de l'album Aladdin Sane. Alors pour que ce projet devienne réalité, une campagne de financement participatif a été lancée. Objectif, trouver tout de même 1 666 000 euros d'ici le 21 mars.
C'est une information RTL, l'exposition Stukin à la Fondation Vuitton vient de dépasser son 1 000 000e visiteur.
Oui, et c'est historique puisque ça fait 50 ans qu'une exposition à Paris n'avait pas dépassé le 1 000 000 de visiteurs. Le record de fréquentation était jusque-là détenu par l'exposition Toutankhamon et son temps en 1967. Ah bah c'était au Petit Palais. Sachez que l'exposition de Tchoukine est encore visible jusqu'au 5 mars prochain.
Michel Simès s'est laissé tenter. Il va finalement enfiler le costume d'acteur.
Oui, il s'est laissé convaincre et tiendra donc bientôt un rôle principal sur France 3. Pour RTL, il en dit plus.
Après avoir parlé à beaucoup de gens, après avoir reçu beaucoup de propositions, je vais finalement tourner, je pense, à Meurtre à la rentrée. C'est un des rôles principaux. Très franchement, je ne veux pas du tout qu'on se dise, ça y est, il se prend pour un comédien. Pas du tout. Je le répète tout le temps, je veux juste m'amuser. Et dans la vie, quand on se lance un petit défi dans un domaine qui n'est pas le sien, c'est toujours assez excitant et j'ai envie de me lancer un défi qui est de voir si je suis capable de jouer, quoi. C'est tout.
Mais vous jouez un flic ?
Toujours médecin. Je le répète souvent aussi, j'ai des patients deux fois par semaine à l'hôpital. S'ils me voient dans un rôle de médecin dans une fiction et que je leur annonce une maladie grave le lendemain, ils vont encore me voir comme médecin. Si je joue un truand, c'est un peu compliqué quand même.
Michel Simès à votre micro, Isabelle Morini-Bosque. Rappelons qu'on le retrouve tous les jours de la semaine sur RTL. Le rendez-vous, c'est 8h15.
À trois jours des Oscars, la presse américaine fait ses pronostics, Charlotte.
Oui, selon le prestigieux magazine The Hollywood Reporter, c'est Emma Stone qui a le plus de chances de remporter l'Oscar de la meilleure comédienne pour La La Land, mais Isabelle Huppert est deuxième pour son rôle dans Elle, devant Nathalie Portman. Verdict très tôt lundi à vivre dans RTL Matin avec Stéphane Carpentier et Stéphane Boutsock.
Bah, les pauvres chéris, une fois de plus, ils vont pas dormir. Hein. On découvre ce matin une autre facette de la chanteuse Rihanna.
Oui, puisque la superstar connue pour ses chansons à succès et ses tenues affriolantes a été désignée personnalité humanitaire de l'année par la prestigieuse université américaine de Harvard. La chanteuse de 29 ans recevra son titre la semaine prochaine. Elle est récompensée pour ses engagements dans les Caraïbes pour aider les étudiants sans moyens et pour avoir financé des établissements de lutte contre le cancer du sein à la Barbade, d'où Rihanna est originaire.
Merci beaucoup Charlotte. C'était bien entendu les express de Laissez-vous tenter. Est-ce qu'il y a une information qui a retenu votre attention? Un personnage qu'on a évoqué qui suscite votre curiosité?
Il y a évidemment Isabelle Huppert en liste pour les Oscars parce que c'est une actrice extrêmement intéressante et qui correspond assez bien au personnage de la série que je suis en train d'écrire.
J'allais dire, il la veut pour interpréter un de ses personnages.
Il y a une question que je voulais vous poser encore, et on le mentionnait dès le début de l'émission, c'est cette faculté à décrire comme ça des décors, la nature. Ici, on retrouve encore la montagne, la neige, le froid, les forêts. D'où vient chez vous cette prédilection, Bernard Minier ?
Il y a déjà le fait que j'ai grandi au pied des Pyrénées, donc j'ai quand même passé les 18 premières années de ma vie, enfin les 17, par là-bas, dans le commun. Qui est une région très 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 particulière, un peu une espèce de Finistère tout au sud de la France. Mmh. Donc voilà, il y a ces montagnes, il y a ces forêts. J'aime la nature. Hein. Je suis un homme de la nature. Moi, je pourrais pas vivre à Paris intramuros, c'est impossible. J'ai besoin d'être un petit peu loin. Et la nature forge aussi les hommes. On est tous le produit, même si on est chacun individu différent, on est tous le produit de notre région, de notre pays, de notre culture et de notre environnement. Donc c'est toujours intéressant de se servir de ça.
Dans un instant, vous qui nous écoutez, vous saurez si vous allez gagner Nuit, dédicacé par Bernard Minier, qui sort chez XO. On se retrouve dans quelques secondes.
RTL Matin, laissez-vous tenter avec Yves Calvi.
Bernard Minier, avant de nous séparer, quel est le nom du commandant de police, déjà présent dans Glacé, que l'on retrouve donc dans votre dernier polar ?
Il faut que je réponde là.
Ah, là vous,
d'accord. Ouais. Oui, okay. Vous le connaissez ?
Oui, j'imagine. Oui.
Aux douanes, on sait faire parler quand même.
Je pense qu'on est en train de parler de Martin Servaz.
Hein, si voilà, Martin Servaz, si vous nous avez appelé au 3210. Eh bien, vous avez gagné le dernier roman de Bernard Minier. Il est publié chez XO, je vous rappelle son titre, Nuit. Merci beaucoup d'être venu nous voir, Bernard Minier, ce matin.
Merci à vous, merci infiniment.
Vous qui n'aimez pas Paris et qui préférez respirer l'air de nos montagnes. On va maintenant retrouver Julien Courbet.
Je vais me faire tuer.
Pourquoi ?
Mon épouse m'a donné ce matin un livre à faire dédicacer à Monsieur Minier, oui. Je l'ai oublié. Voilà, c'est tant pis pour moi, car c'est une fan, donc on va essayer de trouver une autre solution.
Je pense que je pourrais intervenir pour votre épouse,
sur un petit bout de papier,
auprès de sa maison d'édition.
Et je le collerai avec de la colle voilà. Sur la page de garde, un truc comme ça. Merci beaucoup et bravo, en tout cas. Bonne journée.
Bonne journée.
Vous écoutez RTL.